Et ça enregistre, monsieur le député.
Bonjour, Jocelyn.
Bonjour, monsieur le député. C'est un plaisir de vous retrouver dans le studio Vallipontin de Radio Prévert pour le deuxième numéro de votre rendez-vous avec les auditeurs du territoire. Dans ce deuxième numéro, nous avons convenu de parler de différents sujets. On parlera entre autres de France Service, de surveillance vidéo algorithmique, de la mission d'évaluation des JO, dont vous êtes le co-rapporteur, de votre rencontre avec la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.
Oui.
Il y a quelques idées reçues, on y reviendra. On parlera de l'application du mois et pour terminer, il y a un sujet aussi ô combien important concernant les radios associatives du territoire qui ne sont pas du tout contentes. Voilà pour le sommaire.
Merci.
Bonjour. Je vous en prie. Bonjour,
et monsieur. Merci pour l'invitation.
Éric Martineau, donc, sur Radio Prévert. En ouverture de ce deuxième numéro, on doit revenir sur ces premières semaines de la nouvelle mandature. Comment ça se passe?
Eh bien, ça se passe mieux. Pourquoi? Parce que déjà, il y a eu des changements en ce qui me concerne. Je ne sais plus si j'en avais parlé lors de la première émission.
Vous avez changé de commission, vous nous y aviez dit.
J'intègre la commission des lois, mais là maintenant, ça y est, c'est effectif, c'est démarré, c'est parti. Si j'avais des craintes, parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais auparavant dans la commission des affaires économiques, eh bien mes craintes sont dissipées, même si je change de sujet, puisque forcément, au lieu de parler et de traiter beaucoup de sujets économiques, je traite plutôt des sujets en lien avec la sécurité, l'identité, le ministère de l'Intérieur et les collectivités locales. Donc, c'est très bien aussi pour la circonscription, parce que lorsque l'on parle de sentiments d'insécurité, voire même d'insécurité, de sujets, ben là on le voit, là ça revient sur la loi immigration par exemple, sur les droits des personnes, donc j'ai eu le plaisir de rencontrer la défenseure des droits par exemple, enfin il y a eu plein de choses qui font que, j'aime beaucoup aussi ces nouveaux sujets, qui ne sont pas des découvertes pour moi, mais le fait d'en traiter dans les commissions, c'est complètement nouveau. Ça m'a obligé à revoir mon équipe, si je peux en parler un petit peu, parce que, oui.
Il y a du changement.
Oui, alors j'ai été obligé de changer, parce que les horaires de travail de la commission des lois sont aussi changés. Avant, j'avais toute mon équipe dans la Sarthe, voilà, donc j'avais Mathilde, Clara, Philippe et Pascal. Et donc, Philippe n'a pas souhaité continuer après la dissolution de travailler avec moi, enfin directement. Indirectement, il est toujours disponible. Mais Philippe est parti. Voilà. Et donc, je l'ai remplacé par Carla. Alors, pas facile parce que j'ai Clara et Carla. Carla, vous la verrez pas souvent dans la Sarthe puisque elle est toujours sur Paris. Mais elle est venue le week-end dernier. Là, elle est venue parce que déjà pour rencontrer aussi le reste de l'équipe et puis voir et connaître un peu la circonscription avec moi. Et puis, son objectif à Carla, c'est de m'aider sur tous les textes législatifs, vraiment purement justice, ministère de l'Intérieur. Et donc, elle sera sur Paris. Mais c'est vrai qu'il faut aussi quelqu'un sur Paris puisque les horaires, il faut savoir que la commission des lois, on travaille surtout le lundi, mardi, entre 16h et minuit, et le mercredi matin, entre 9h et 13h. Voilà. Et après, il y a l'activité dans l'hémicycle qui travaille aussi à côté.
Voilà donc pour l'entrée en matière de cette deuxième émission de la saison de Bonjour Monsieur le Député. Vous avez évoqué, Éric Martineau, membre de la Commission des lois, votre rencontre avec Claire Hédon.
Tout à fait. Madame la défenseure des droits auprès des populations, qui a un rôle très important, un rôle plutôt assez méconnu, puisque les gens, lorsque vous avez rencontré un problème, une difficulté, que vous estimez que vos droits sont bafoués, vous pouvez écrire à Madame la Défenseure des Droits, qui est là pour justement aider les concitoyens à préserver leurs droits. Donc c'est une agence indépendante. Et donc j'ai aimé l'interpeller sur un sujet déjà, la méconnaissance d'elle-même, puisque aujourd'hui, lorsqu'on demande aux populations, peu de gens savent peuvent faire appel à la défenseur des droits. Et puis après, j'ai voulu l'interpeller justement sur France Service, parce que s'il y a bien quelque chose qui a été créé récemment et qui répond quand même aux attentes des concitoyens, même s'il faut encore le développer, ça j'en suis conscient, parce que y a un sentiment d'abandon, d'oubli dans les campagnes, dans la ruralité, et le fait des collectivités, donc l'État qui avec les collectivités locales, les communautés de communes, remettent ce qu'on appelle France Service, en clair, vous avez un problème, vous prenez rendez-vous ou pas, ça dépend comment ça fonctionne, mais c'est mieux de prendre rendez-vous avec France Service, qui va vous aider dans vos démarches administratives si vous avez des difficultés.
Et concernant France Service sur le territoire de la communauté de communes Sud-Sarthe, il y a des permanences qui tournent.
Voilà, dans les collectivités, y compris dans les toutes petites communes, puisque je suis originaire de Chenu et je sais que, alors je n'ai plus la date exacte, mais une à deux fois par mois, vous avez un agent France Service qui vient, y compris dans les petites communes. Et donc ça, c'est vraiment un vrai plus. Je sais qu'à Chenu, c'était sur rendez-vous et c'est mieux parce que si vous voulez traiter votre dossier, que ce soit de retraite, d'un problème d'identité, un problème en lien avec des sujets administratifs, eh bien, France Service est très bien pour vous aider dans vos démarches.
Et vous avez également, Éric Martineau, une préoccupation.
Oui.
Je dis les choses comme ça parce que vous allez comprendre pourquoi. La surveillance par le biais de l'algorithme en matière de vidéo.
Tout à fait, parce que ça, je l'ai questionné aussi par rapport à ça, puisque c'est une expérimentation qui avait été mise en place pendant les Jeux Olympiques pour assurer la sécurité. Et on ne peut pas dire, mais la sécurité de tout le monde a bien été assurée. Il n'y a pas eu de problème majeur pendant les Jeux Olympiques. Toutes les personnes qui ont pu s'y rendre, et puis on a bien vu dans la presse qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas eu de problème avec ces surveillances.
Même si on nous a dit qu'il y a eu quelques attentats qui ont été déjoués.
Oui, mais heureusement. Et ces surveillances algorithmiques avec de la vidéo-surveillance algorithmique font que ce soit dans les gares, sur les lieux où il y avait beaucoup de gens, s'il y avait des mouvements de panique, c'est pas de la reconnaissance faciale. Je tiens tout de suite à... Il faut bien faire la séparation entre les choses. Mais c'est vrai que ça peut faire peur, mais on est en droit de s'interroger, de savoir si... Est-ce qu'on respecte bien les droits de nos concitoyens ? Donc, surtout qu'on sait très bien qu'il y a un ministre de l'Intérieur, le nouveau, qui aimerait bien faire perdurer cette vidéosurveillance algorithmique.
Et vous en pensez quoi ?
Alors, pour l'instant, je mène une enquête et je vais mener, ça sera la deuxième partie de votre question, sûrement parce que vous l'avez traité un petit peu juste avant, sur quel prix, quelle sécurité, quelle vidéosurveillance on doit mettre en place pour assurer notre sécurité.
Justement, au titre de la mission d'évaluation des Jeux Olympiques, c'est bien ça.
C'est ça. Donc, je suis très fier et très heureux d'avoir été nommé donc co-rapporteur par la mission, par la commission des lois, pour mener une enquête sur la sécurité, comment elle a été vécue, assurée pendant les Jeux Olympiques. Et donc, j'aurai l'honneur à partir de cette semaine, de commencer cette mission d'enquête, et je commencerai par interroger le préfet de police de Paris, donc Laurent Nunez, de voir quelles ont été les difficultés, les problématiques rencontrées, les aides, et de voir qu'est-ce que l'on peut maintenir, perdurer, pour assurer la sécurité, non pas uniquement des Parisiens et des touristes pendant les Jeux Olympiques, mais de tous les Français. C'est l'objectif de cette mission.
Et entre autres personnalités ou personnes ressources
à auditionner, on aura beaucoup de monde puisque on va mener des auditions tous les jeudis jusqu'à fin novembre et on reçoit des personnalités à peu près toutes les 30 minutes. Donc, entre autres, voilà, en premier, on va démarrer par le préfet de police, mais après, on aura aussi bien même le comité d'organisation des Jeux Olympiques, Tony Estanguet, on verra. Alors, par contre, oui, ne me posez pas la question, cher Jocelyn.
Vous me voyez venir.
Oui, est-ce qu'on interviewera
Céline Dion ?
Céline Dion, je ne sais pas, c'est pas sûr.
Hein. Lady
pas
Gaga.
Sûr, Lady Gaga non plus, j'aimerais beaucoup, mais je ne suis pas certain. Non,
bon, on va s'arrêter là, sinon on y sera encore, puisqu'il y a eu pas mal de gens qui ont fait œuvre collective pour assurer la...
Oui, que ce soit nos gendarmeries. Je vais poser une question très précise, parce que j'ai accompagné la gendarmerie de la Sarthe lors des Jeux Olympiques. Ce que j'aimerais savoir, c'est, on a assuré la sécurité des JO, mais est-ce qu'on n'a pas pénalisé nos départements, nos côtes françaises, notre ruralité. Est-ce qu'il y a en clair, est-ce qu'il y a eu plus de délits et d'infractions parce que tout le monde était sur Paris ou Bordeaux ou Marseille, voilà, pour les Jeux Olympiques. Et donc, on pourra donner des chiffres très précis, mais on en reparlera de cette mission, puisqu'on doit présenter nos résultats pour la mi-décembre ou la mi-janvier, en fonction de l'avancée des travaux.
Et pour terminer, hein, pour mettre un terme à cette parenthèse des Jeux Olympiques, si tant est qu'on puisse fermer quelque chose de l'ordre du sportif, est-ce que sur les territoires, personnellement, monsieur le député, vous avez vu le coup d'après où vous vous êtes dit, tiens, bah oui, ça c'est un héritage des Jeux Olympiques et on a tout intérêt à le voir perdurer?
Eh bien, je le pense et je le souhaite, si vous me demandez. Et vous voyez, même en venant là tout à l'heure, j'ai passé dans Maillé, de voir encore les anneaux olympiques dans la municipalité de Maillé. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est encore un... pour moi, j'étais assez déçu, si vous me demandez, que la vasque soit enlevée, par exemple, du jardin des Tuileries. J'espère qu'il restera des choses, oui, dans Paris. Alors, des choses... même là actuellement à l'Assemblée nationale on a les 10 statues qui sont sorties sur la Seine. Je regrette qu'elles soient, après c'est la maire de Paris qui décide, hein, qu'elles soient emmenées porte de la Chapelle. J'aurais bien aimé qu'elles restent sur les bords de la Seine, les 10 femmes qui étaient mises en avant pendant la cérémonie des Jeux.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que ça rappellerait ces Jeux Olympiques où elles sont sorties comme si elles sortaient de l'eau avec ces statues. Donc je trouve ça... Après, je comprends pour les habitants de la Porte de la Chapelle. Au moins, ça fera une occasion d'aller là-bas pour aller voir les statues. Mais elles auraient été sur le bord de la Seine comme elles étaient sorties. J'aurais trouvé ça plutôt sympa. Il y avait le même débat sur les anneaux olympiques qui doivent rester ou pas sur la Tour Eiffel. Là-dessus, je me dis non, ils peuvent être devant, parce que la Tour Eiffel reste la Tour Eiffel. Mais les Jeux Olympiques, y compris dans nos campagnes, je pense que, vous voyez, dans cette période où on doute, où il y a eu cette dissolution quand même au mois de juin, où les gens peuvent être énervés, une société qui est quand même très fracturée, très divisée, d'avoir des éléments, des choses qui nous réunissent tous... J'espère qu'il en restera quelque chose. Et il faut qu'il en reste quelque chose. Ce que l'on peut retenir, moi j'ai déjà quand même une belle... Mais j'aime pas ce mot de conclusion, parce qu'on voudrait dire que c'est fini. C'est qu'on est capable de faire de très très belles choses, que le monde nous envie. Ça, on oublie de le dire. Alors ok, il y a des choses qui vont mal, mais on a été capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir que les Américains se posent aujourd'hui la question de savoir comment ils vont faire pour faire aussi bien que Paris 2024 et les Jeux Olympiques en France. Donc écoutez, là, il faudra préparer les Jeux Olympiques en 2030 avec la Savoie. Il faut savoir que déjà, on est dessus, nous, pour la sécurité, parce que ça ne va pas se préparer un an avant. Donc on y travaille. Et dans cet héritage, justement, de se dire qu'on a été capable d'assurer la sécurité. Alors que rappelez-vous, avant les Jeux Olympiques, il y avait beaucoup de politiciens, très, 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 très à l'extrême droite, entre autres, qui n'arrêtaient pas de dire que ça allait être un carnage, ça serait, enfin, pas possible, une vraie honte, enfin, tout ce qu'on peut avoir pu entendre. Et, non, ça a été une très belle réussite. Et on est capable du très bon, et j'y crois.
Et puis, l'autre entrée, cette éclosion aussi du sport santé, le sport santé continue aussi de s'étendre partout.
C'est ça, et puis même le paralympisme.
Aussi.
Vous me demandez, moi j'ai eu la chance de pouvoir, d'acheter des billets pour aller voir des épreuves de paralympiques. Pourquoi le paralympisme? Plus parce que, déjà par soutien, premièrement. Parce que aussi dans mon entourage, et puis même, enfin je sais pas me justifier, mais je pense que les personnes paralympiques sont des personnes entières comme d'autres. On a tous nos plus et nos moins. Et donc c'était très beau, c'était accessible. Faut savoir que j'ai pu aller à la cérémonie de clôture pour 45 €, par exemple. Donc, alors, ok, c'est 45 €, je conviens que c'est une somme, mais c'est pas 450 ou 1000 ou 1500 comme il y a eu pour les Jeux Olympiques, les autres JO. Et de dire que oui, tout le monde, peu importe nos différences, nos atouts et nos faiblesses, eh bien, tout le monde est capable de pratiquer du sport, oui.
Nous sommes avec Monsieur le député Éric Martineau dans l'émission. Bonjour Monsieur le député, deuxième numéro. Sachez, on vous le rappelle, que vous pouvez également être partie prenante de ce moment radiophonique où on essaie de parler tous azimuts. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdit. Autant un sujet qui peut paraître léger, moins important qu'un autre qui peut vous paraître sérieux et grave, nous on les met à la même hauteur puisqu'on parle de votre vie, de votre territoire, on parle de la France.
Tout à fait.
Alors, monsieur le député, j'ai vu, et comme on sait que vous rendez compte sur les réseaux sociaux de votre action, de votre activité, il y a un sujet, puisque le jour où on enregistre cette émission, on est le 14 octobre.
Oui.
En matière de citoyenneté, je sais que la laïcité, c'est quelque chose que vous avez chevillé au corps.
Oui, complètement, oui.
Jour où on a rendu hommage à ces professeurs.
Qui ont été tués.
Et le fait d'enregistrer cette émission, c'est curieux, on n'a jamais encore enregistré La Flèche. En ce jour, vous êtes là avec nous.
Oui, c'est vrai.
Au siège de Radio Prévert, au collège Jacques Prévert de Pont-Vallin.
Oui.
Et on a parté, on parlait d'autres sujets, pour d'autres contenus, d'autres sollicitations auprès des jeunes. Pour vous, c'est essentiel?
Alors, c'est primordial parce que l'enseignement... la possibilité d'apprendre à penser par soi-même, ne pas être dans une doctrine, de ne pas être formaté, mais bien, c'est bien l'esprit justement de ces professeurs qui moi-même m'ont appris. Faut être honnête, je prends souvent, vous savez, l'exemple du pied de tomate qu'on va mettre sur un tuteur. Et ces tuteurs, ce sont, c'est nos parents, mais c'est aussi nos professeurs, que ce soit déjà à la toute petite école lorsqu'on vous apprend à écrire, compter et lire, enfin lire, écrire, compter. Mais après, dès que vous rentrez, que ce soit au collège puis au lycée, moi, je garde le souvenir de professeurs qui ont été extraordinaires, y compris de professeurs de philo, par exemple, que j'aimais beaucoup déjà me prendre la tête quand j'étais plus jeune. Je pense que dans ces sociétés, ce qu'on disait tout à l'heure, où j'aime pas ce mot de wokisme, de communautarisme, ces communautés qui, comme si on devait caser les gens dans des, mettre des gens dans des cases. Non, moi, je surtout pas. J'aime bien être là où on ne m'attend pas. Il faut rendre forcément hommage, à ces deux professeurs, leur famille, leurs proches, leurs amis. Mais et puis tout le corps professoral, parce qu'aujourd'hui personne et surtout pas. Et surtout pas encore les professeurs ne devraient être inquiétés parce qu'ils enseignent cette liberté, liberté d'expression, liberté de pensée qui fait cet esprit français. Moi j'ai été, tout à l'heure là on parlait des Jeux Olympiques, mais quand j'ai reçu un bon nombre de courriers de personnes s'indignant, de tableaux lors de la cérémonie, alors que mince, chacun y voit ce qu'il veut. Mais et puis même, je dirais, on l'a vu lors des attentats de Charlie. Je ne dis pas que tout le monde doit aimer Charlie Hebdo, mais que ça existe, il n'y a aucun mal. C'est aussi l'esprit français. L'esprit français, c'est bien cette notion de liberté, de penser. On aime, on n'aime pas, c'est pas grave. On doit respecter. On respecte aussi la liberté individuelle de chacun de penser par soi-même.
Être capable de se dire les choses même si on n'est pas d'accord.
Oui, complètement. Et puis que ce soit même par les religions et surtout par les religions. Je ne me prononcerai pas sur si je suis croyant ou pas.
Mais je sais que c'est un sujet qui vous intéresse.
Complètement.
Étiez à l'école des hautes études.
Oui, l'Institut des hautes études du monde religieux.
C'est ça.
Et là, j'ai même reçu mon diplôme.
Félicitations.
Il n'y a pas longtemps. Mais comme quoi, on peut reprendre les études même lorsqu'on est plus âgé. Pourquoi ça? J'avais pris des cours du soir, c'est vrai, pendant la pause du dîner à l'Assemblée nationale, plutôt que tous les mardis soirs, au lieu d'aller manger, j'allais prendre des cours.
Pourquoi?
Parce que, alors j'ai eu la chance, moi, dans mon entourage proche, d'avoir aussi bien des gens de la communauté juive, catholique, protestant, orthodoxe. J'avais pas d'amis musulmans parce que c'est vrai que sur Chenu, il n'y en a pas beaucoup. Mais si ça s'était fait, là maintenant sur Paris, oui, forcément, j'ai des amis musulmans. Mais, et puis des gens qui sont aussi non-croyants, athées, agnostiques, peu importe. Le plus important, c'est que chacun peut vivre sa vie, vivre sa foi ou être contre et ne pas, mais qu'il n'y ait pas de prosélytisme et du respect de l'autre dans son intégrité, dans sa singularité. Voilà, moi, lorsque vous vous présentez, vous ne dites pas « Bonjour, je m'appelle Eric, je suis... » Non, je suis producteur de pommes. Bon, actuellement, je suis aussi député, mais on doit respecter les convictions de chacun, qu'elles soient religieuses, politiques...
philosophiques.
Et philosophiques, ouais, sans problème.
La religion relève de l'intime, c'est ce que vous m'aviez dit.
Oui, complètement. Et la laïcité, ce n'est pas l'abnégation des religions, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Et si vous croyez, peu importe la religion. Je ne parle pas des sectes, c'est une dérive. Après, c'est encore autre chose.
Et ça pourrait être une commission qui pourrait se pencher sur ce sujet-là.
Complètement. Moi, c'est pour ça que... que ce soit à l'Assemblée nationale, lorsqu'on est sur Paris, s'il y a des sujets qui vont traiter, des sujets par exemple religieux. Vous savez, on a parlé des Jeux Olympiques. Il faut savoir qu'au ministère de l'Intérieur, on avait travaillé sur la liberté religieuse pendant les Jeux Olympiques. Parce que si pour un Français, ce n'est pas essentiel, enfin pas tous, parce qu'il y a des Français pour qui c'est essentiel de prier chaque jour, et ça, il faut le respecter, mais... Vous avez dans les sportifs, en fonction aussi des nationalités, et ça m'a plu parce que je l'ai vu pendant le paralympisme, où j'ai vu un coureur brésilien donc faire sa prière avant de partir. Bon, c'est son droit, voilà. Et je me rappelle, donc j'avais rencontré Monseigneur Ulrich, qui est l'archevêque de Paris, pour traiter des sujets religieux pendant les Jeux Olympiques, parce qu'il y a donc les 5 grandes religions mondiales qui sont présentes dans le village olympique, ça on n'en parle pas, mais où chacun peut vivre sa foi. Alors surtout... les coureurs, les sportifs, les athlètes qui, avant une épreuve, pour beaucoup, ont besoin, et ça on l'oublie, d'aller à l'église, d'aller à la mosquée, à la synagogue. Et pour eux, c'est très important. Et donc, il faut respecter ce droit de pratiquer aussi.
On respecte, on est pour la pluralité.
Complètement.
Et en matière de pluralité, monsieur le député, il y a un sujet. Ah. Et on a dit que les auditeurs peuvent être partie prenante. Et moi, je vais mettre de côté ma casquette de d'homme de radio. Mmh. Et je vais vous parler en tant que citoyen. Par hasard, j'interviens dans une radio, donc c'est lié. On a des interrogations, des craintes, puisque beaucoup ne le savent pas. Les radios associatives sont financées par le Fonds de soutien à l'expression radiophonique.
Tout à fait.
Et les signaux qui nous sont envoyés, puisqu'on est en pleine période où il y a le débat concernant
le projet de loi de finances.
Exactement.
Tout à fait.
Et
qui va arriver cette semaine en assemblée, à partir de demain.
Oui. Exactement, vous avez été interpellé.
Oui, par plusieurs radios.
Merci.
Y compris Radio Prévert.
Tout à fait.
Je ne vais pas citer les autres par respect pour Radio Prévert.
Mais la Fédération Sartoise
a bien fait son travail.
Et la CNRA, le SNRL aussi, puisque nous sommes dans les locales. Oui. Alors, on a besoin d'entendre un discours qui est clair. Est-ce que on en a après les radios associatives ou pas, monsieur le député?
Alors, personnellement, non. Et j'espère qu'il en est de même pour la ministre de la Culture. C'est vrai que les récentes déclarations envoyées de dire de limiter de 35% de mémoire le budget pour les radios locales interpellent et posent vraiment question. Parce que lorsqu'on se dit, et moi-même je le suis, je vous l'ai toujours dit que j'étais libre et je suis pour la liberté de parole parce qu'on a le droit de pas tous penser la même chose et au contraire, vaut mieux parler que d'avoir de la rancœur, d'exprimer du... Et puis après, avoir de la haine après envers les uns les autres. Donc j'espère, on verra. Que ce ne sont que des effets d'annonce, parce que là, aujourd'hui, quand même, au niveau du gouvernement, on sent bien que ce n'est pas un gouvernement qui est très, très uni, ça, il faut être honnête. Et à la limite, moi, il y a des ministres auxquels je me reconnais plus que dans d'autres, ça, c'est sûr, ne me demandez pas les noms.
Je vous demanderai après que vous soyez exprimé sur ce sujet d'importance pour nous.
Mais je... Non, non, enfin, vous pouvez compter sur moi, oui, pour défendre quand même voilà, les budgets, que ce soit pour les radios locales, forcément, parce que là, on est à la radio locale, donc on pourrait me dire que c'est un peu facile. Mais il y a des sujets, comme pareil, que ce soit sur la justice, où on avait voté une loi de programmation, pareil sur le ministère de l'Intérieur. Même j'en ai profité pour interroger notre actuel ministre de l'Intérieur sur les conditions de travail de nos gendarmes et de nos gendarmeries. Je pense qu'il y a des vrais sujets. On avait voté ce qu'on appelle une loi de programmation. Aujourd'hui, on a des problèmes de financement, mais je crois surtout en l'efficience de nos impôts. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut faire aussi bien avec moins? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut revoir à la baisse? Pourquoi pas? Mais va pas falloir y aller comme ça en disant à l'État qu'on enlève 30 ou 35% à tout le monde, bête et méchant. On peut se poser la même question sur l'éducation. Pour moi, l'éducation nationale, ce n'est pas une charge, mais c'est bien un investissement. Donc, alors il faudra sûrement trouver soit des recettes nouvelles ou des dépenses en moins, mais qu'on regarde déjà de l'efficience de ce que l'on a besoin.
Donc en l'état, si j'entends ce que vous dites, c'est que une mesure qui viserait à soustraire à l'enveloppe du fonds de soutien à l'expression radiophonique 30 ou voire 35%, ça, vous diriez non, vous voteriez contre.
35%, c'est quand même pas possible, hein. Faut quand même être honnête. Hein. Et même après des baisses, parce que si tout le monde baisse, il va falloir trouver quand même comment on fait. C'est comme si nous, moi je suis aussi chef d'entreprise, de dire on baisse de 35% mon budget, recettes. On le voit bien ici, c'est pas le nombre de salariés qui va poser problème, où on va dire on va supprimer du monde. Non, c'est pas ça. Donc qu'est-ce que l'on veut faire? Je serais curieux d'avoir l'explication de la ministre de la Culture.
Et dans une autre vie, on sait que vous étiez animateur.
Radio.
Voilà.
Tout à fait.
Donc vous savez ce que représente une radio de territoire.
Ouais, complètement, et qui est très écoutée. Il faut savoir que ce soit, vous savez, dans mes proches, très proches, j'ai quelqu'un aussi qui est malvoyant. Et vous savez que la radio, pour les personnes malvoyantes, est, alors c'est sûr, à l'heure des tablettes et des télés et tout ça, mais dès qu'une personne est malvoyante, s'il y a bien une chose qui est très importante, c'est la radio.
Voilà. Ok, donc on compte sur vous.
Oui, vous pouvez compter sur moi. Je pense qu'il va y avoir des discussions pour savoir pourquoi et comment ils ont sorti ces 35%. Voilà, parce que s'il n'y a pas des économies à faire ailleurs au ministère de la Culture, je ne sais pas. Regardez.
Il y a quelques semaines, on entendait parler du printemps de la ruralité qui ferait de sorte que des radios en milieu rural auraient plus d'argent, mais quelques semaines après, quand on entend ça, on se demande...
Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, je sais qu'il y a eu un changement de Premier ministre.
Ça ne nous a pas échappé.
Ouais, non, ça on l'a vu. Mais c'est pas pour ça qu'il doit être fait n'importe quoi. Voilà, parce que il s'assit, pour moi, vous savez très bien, si on vous enlève 35% d'ici de subventions, d'aide du ministère de la Culture, je pense que ça pose un vrai problème sur ces radios locales. Alors si c'est pour avoir uniquement des grandes radios nationales qui font de la pub et écouter du... Enfin, je dirais pas qui, hein, parce que je pense à des radios que je n'écoute pas. Je suis désolé.
Mais c'est ce que vous disiez, vous êtes pour la pluralité. Et en matière de pluralité, si le message c'est d'avoir moins de moyens et in fine, c'est qu'il y ait moins de radios associatives, puisque le modèle économique est ainsi fait, c'est plus de la subvention qu'autre chose, mais c'est le modèle économique qui veut ça. Oui. Donc en matière de pluralité, le compte n'y est pas.
Non, et surtout qu'en plus, ces radios locales, si vous avez bien un intérêt, mais vraiment, alors elles portent leur nom, c'est d'être locales. Et en clair, je vous remercie de m'inviter, mais que ce soit tous les autres élus locaux, les maires, présidents de communautés de communes,
les associations,
qui, elles, ont une vraie possibilité de s'exprimer, de donner leur avis, d'inviter à participer. Voilà, quand vous dites une association, par exemple, les événementiels, c'est bien la radio locale. C'est pas la radio nationale qu'on écoute partout en France, ou pas, qui va faire que... non, là, c'est un lissage. Et on le voit aujourd'hui, vous savez, par la concentration.
des médias.
Des médias. Moi, je déplore, hein, si vous me demandez. On l'a vu pendant les élections législatives où une grande radio nationale s'offre un animateur pendant 15 jours pour bourrer le mou des Français sur des problématiques. Ok, je dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je dis juste que c'est les solutions qui sont proposées, qui sont amenées, qui tendent à aller vers des parties de populistes que je n'apprécie pas.
En tous les cas, nous, on invite tout le monde. Oui. Et une fois qu'on a commencé « Bonjour, monsieur le député », il y a d'autres partis politiques, d'autres mouvements de pensée également qui nous ont dit « Ah, ce serait bien qu'on ait également notre temps d'antenne mensuelle comme monsieur le député. »
Moi, ça ne me dérange pas.
Nous non plus.
Eh bien alors,
on y va.
Mais oui, moi, ça ne me dérange pas du tout.
Merci pour cette clarté dans la réponse. Ouais. Donc, on surveillera de près votre vote au moment où il faudra justement quelques mots pour expliquer cette fameuse navette. On parle beaucoup du PLF. Voilà. Et comment ça se passe?
Comment ça se passe? Alors, on va avoir, donc là, le Premier ministre demain va présenter son budget à l'Assemblée nationale mardi après-midi. Et puis, ensuite, les commissions vont commencer à discuter et à voter les amendements qui sont proposés pour modifier ce projet de loi de finances. Voilà. Ensuite, une fois que c'est voté à l'Assemblée, c'est voté aussi après au Sénat. Et puis, à un moment, il faut voter. Bon, le dernier mot est donné à l'Assemblée nationale, mais attention, là où ça peut se compliquer... On l'a vu par le passé, là, les deux années qu'on a passées, que j'ai vécu moi à l'Assemblée nationale. Il faut savoir que le projet de loi de finances, lorsque vous votez le budget, ça veut dire que quelque part vous approuvez le gouvernement. Aujourd'hui, la difficulté, vous avez 11 groupes politiques plus un 12e de non-inscrits libres, ce qui veut dire que pour voter le budget, il faut 289 oui qui votent. Et ça, aujourd'hui... Vous dire qu'il y aura 289 députés qui voteront le budget, on va déjà voir dans quel sens il va aller. D'accord ? Ce qui veut dire que sinon, il n'y a qu'une solution pour passer le budget. Alors, il peut y avoir par ordonnance, mais gouverner par ordonnance, c'est quand même compliqué. Mais sinon, après, c'est le 49-3. De dire, on arrête les débats sur le budgétaire et c'est le gouvernement qui décide d'attribuer ou non, de fixer les montants par ligne et par chapitre. Pourquoi il y a eu autant de buts de 49-3 auparavant? C'est surtout que c'est par chapitre, voyant que ça peut aller dans un sens pas forcément bon. Alors ce qu'il faut savoir, et ce que les Français ne savent pas, c'est qu'un 49-3 budgétaire... Eh bien, il y a quand même possibilité de discuter. Il faut savoir que lorsque le Premier ministre, à l'époque c'était Madame Borne, donc qui déposait son budget, il y avait un 49-3 budgétaire. Dès que le 49-3 est posé, il faut tout de suite foncer à Matignon, demander un rendez-vous, pour dire « Attendez, Madame la Première ministre, j'ai un super amendement, celui-là, il faut que vous le reteniez. » Et ça, c'est elle, c'était la Première ministre qui était libre arbitre de prendre ou non l'amendement. L'inconvénient, oui, ça enlève, on va dire, la légitimité quand même au Parlement de dire on n'a pas voté directement, parce que je dis directement, puisque indirectement on le votait, puisqu'il y avait toujours systématiquement une motion de censure derrière. Donc ça veut dire que si vous n'étiez pas d'accord avec la Première ministre, vous votiez la censure. Si vous êtes plutôt d'accord ou que vous voulez vous abstenir, vous ne votez pas la censure. Donc, en tout état de cause, les députés sont amenés à voter. Soit le budget... S'il y a un 49-3, il y aura une motion de censure derrière et vous votez ou non la censure. Il faut savoir que entre ce qui était déposé auparavant dans le budget, il y avait quand même des amendements qui étaient repris. Bon, pas tous, parce qu'entre autres, moi j'en avais déposé un sur les ordures ménagères que je vais redéposer dans l'avenir, je vous le rassure, et que j'aimerais bien qu'il soit pris en compte.
On en reparlera.
On en reparlera.
Lors de la troisième émission de Bonjour Monsieur le Député. Donc tout ça, toute cette séquence projet de loi de finances, ça nous amènera jusqu'à...
Théoriquement, là, on a un agenda jusqu'à la mi-novembre. Et donc tous les jours, là, on va faire du 9h minuit à parler de budget.
On suivra de près votre action et on se permettra même de vous appeler entre-temps pour faire un état des lieux puisque nous sommes très intéressé par ce qui se passe actuellement.
Ça, je veux bien comprendre.
Oui. Et en d'autres moments, d'ailleurs, on l'était tous. Hein,
et je vous rassure, voilà, il y a tous les domaines. Ça va dans tous les domaines. Mais c'est vrai que la difficulté, vous voyez, je me rappelle d'une séquence bien particulière sur, par exemple, les Outre-mer, où un lundi matin, on traitait des Outre-mer. Et il y a même un député des Outre-mer qui n'a pas été réélu, parce que là, j'ai vu qu'il n'était plus dans l'hémicycle, mais où il y avait un budget. Alors, je ne me rappelle plus les montants exacts, mais il y avait des amendements qui passaient, mais qui faisaient que le budget était multiplié par 4, alors que ce n'était pas possible. Alors, c'est bien de dire on ne respecte pas le vote, mais même à un moment, ce député des Outre-mer a pris la parole en disant « Mais arrêtez de voter n'importe quoi, ça va finir au 49-3 ». Mais oui, c'est forcément... Vous savez, comment se passe un budget? Je peux le dire. Vous voyez, on a une table ronde là, ici. Imaginez, vous êtes père de famille, vous êtes avec madame, vous avez 3-4 enfants. Vous dites, voilà, j'ai 2000 euros à dépenser. Toi, comment on fait? Toi, tu veux quoi? Alors, il y a un qui va dire, il faut changer le cartable. L'autre, il faut changer l'aspirateur. L'autre, il faut faire un machin. Arrivé à la fin, quand vous avez fait le tour de table, vous n'êtes pas à 2000 euros, vous êtes à 2005. Vous faites comment? Bah, y a un moment, le chef, il dit 49-3, ça va être 2000. Ça ne sera pas 2005. Et toi, tu n'auras pas un aspirateur à 600 euros, tu auras un aspirateur à 300. Vous voyez? Et ça finit comme ça. Voilà le budget. Là, c'est exactement pareil au niveau français.
Merci pour l'explication de texte sur le budget. Et pour terminer...
Des chiffres plus gros, pardon.
J'entends bien, c'est de l'ordre de milliers de...
Voilà, milliards. Oui.
On avait dit qu'on terminerait avec la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Vous avez rencontré des gens émanant de cette prestigieuse association?
Tout à fait. Mais alors pourquoi? Parce qu'ils m'ont sollicité, m'ont invité. Donc si j'ai le temps, si je peux, enfin le temps, on le prend le temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais je pense que c'était très important. Parce que vous savez, avec la crise de l'énergie qu'on a eue en 2022-23, avec des prix de l'électricité qui avaient flambé, moi-même, je me suis battu en tant que député pour faire passer des dossiers prioritaires pour pouvoir réduire les factures électriques de nos boulangers, pour sauver les boulangeries. Je pense que ce qui est bien, c'est de, oui, quand on dit qu'on les soutient, c'est aussi de participer à leurs réunions pour entendre leurs problèmes, leurs vérités, leurs doléances sur ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils aimeraient pas. Entre autres, là, forcément, quand vous finissez la réunion, ils vous soumettent à une autre problématique que je ne connaissais pas. Par exemple, l'interdiction de travailler le 1er mai pour des boulangers pâtissiers, donc qui pose quand même de gros soucis dans certains secteurs. Mais j'ai appris aussi, parce que, vous savez, dans l'opinion publique, on dit toujours, les boulangeries, elles ferment, ça ferme, ça ferme, ça ferme. Et j'étais heureux. Alors oui, c'est vrai qu'ils ferment environ 200 boulangeries par an en France. Ça, c'est vrai. Mais il faut savoir aussi qu'ils s'en ouvrent 250. Donc, le bilan reste quand même positif. Alors, c'est vrai que ça peut poser problème dans des petites boulangeries de village en pleine, dans nos campagnes, dans nos ruralités, ça c'est vrai. Mais c'est pas que les gens mangent moins de pain, les gens mangent aussi, enfin si c'est vrai qu'ils mangent un peu moins de pain, mais la consommation change, les lieux de consommation changent aussi, et donc le bilan est quand même plutôt positif, parce que même il manque de salariés dans les boulangeries, pâtisseries, et donc, s'il y a des gens qui veulent se lancer, des jeunes, puisque là, on est dans un collège, ils sont à peu près sûrs de trouver du boulot s'ils se lancent dans la boulangerie-pâtisserie. Mais donc, le bilan est positif. On ouvre plus de boulangeries qu'on en ferme.
Eh bien, on fera les comptes avec vous pour voir s'il y a des jeunes qui ont répondu à votre appel et qui se sont engagés dans cette belle profession.
Et je suis client chez les pâtissiers, je vous rassure.
Ah, c'est donc ça, monsieur le député, on comprend mieux. Merci beaucoup, Éric Martineau, d'avoir parlé avec les auditeurs. Et on le rappelle, émission interactive, s'ils veulent en être également.
Ouais, n'hésitez pas, j'ai pas de tabou. Donc, allez-y. Et je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée.
C'était son émission et il vient de la terminer ainsi. Moi, j'ai plus qu'à pousser les boutons en lui disant merci.
Au revoir.